Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kassai Oriental. Je refuse totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la fréquence de la paix Radio Okapi qui vous propose parole aux auditeurs. Le chef de l'État a nommé la semaine dernière par ordonnance présidentielle les mandataires des 10 des 50 entreprises publiques. Parmi les entreprises concernées, il y a notamment la Régie des Eaux, la SNEL, le GEFREM, la SCTP, l'Exonatra. Certains observateurs estiment que ces nominations vont contribuer à améliorer la gestion de ces entreprises et les relancer. Une autre opinion pense qu'au-delà des nominations, il faudrait mettre en place de mesures profondes des réformes de ces entreprises. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081 890 63 80 et 09 97 06 49 69 pour vos interventions en direct. Vous pouvez également nous rejoindre sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Sylvie Matundu est à la mise en onde de ce programme réalisé par Tatima Poukou et Pierrot Elameji vous le présente sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elameji.
Rappelons que dans le préambule de la loi numéro 08007 du 7 juillet 2008 portant disposition générale relative à la transformation des entreprises publiques, le législateur avait pensé, avait estimé que les entreprises publiques organisées par la loi cadre numéro 78002 du 6 janvier 1978 n'ont pas atteint les objectifs économiques et sociaux leur assignés. Pour cette raison, leur réforme s'impose. Cette réforme s'inscrivait dans le cadre du programme général de redressement macroéconomique et sectoriel conçu et conduit par les gouvernements. Elle avait pour objectif de créer un cadre institutionnel susceptible d'insuffler une dynamique nouvelle aux entreprises du portefeuille de l'État en vue d'améliorer leur potentiel de production et de rentabilité, contribuer au renforcement de la compétitivité de ces entreprises et l'ensemble de l'économie nationale. Mais plusieurs nominations ont été opérées dans ces différentes entreprises. Et sur la page Facebook, il y a par exemple Alain Bolodja qui dit « En 20 années, nous avons pu changer autant de gestionnaires à la tête de toutes ces entreprises. Malheureusement, la situation semble ne pas s'améliorer pour autant, ce qui prouve à suffisance que le problème est plus complexe et que l'on semble les percevoir. Il est vrai qu'il y a un problème criant des management, mais il faudrait aussi reconnaître que certaines autres variables explicatives sont aussi là, notamment l'influence politique, la nature de la clientèle, la productivité plutôt marginale du personnel, autant de questions. Et nous avons en ligne Félicien. Vous êtes avec nous ici à Kinshasa, cadre dans les entreprises publiques plusieurs années. Vous avez travaillé, réfléchi à la réforme. Merci d'être avec nous, Félicien Kindoula. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et si nous partons de ce qu'Alain disait tout à l'heure sur la page Facebook en évoquant que 20 ans, on a nommé, changé. Alors, quand vous regardez l'histoire de nos entreprises du portefeuille de l'État, et dans cette histoire, quel est l'élément clé d'abord que vous pouvez exposer par rapport à ce qu'étaient ces entreprises et ce que les entreprises sont devenues aujourd'hui?
Oui, merci Pierrot. Comme vous venez de le dire là, dans le préambule, on est en train de montrer que les entreprises qui existaient depuis la Deuxième République ne répondaient plus aux critères et que ça ne donnait plus, ça produisait plus comme ça produisait à l'époque. Il fallait nécessairement une réforme, mais cette réforme a été beaucoup plus basée sur les moyens financiers, les moyens techniques, les infrastructures, l'équipement, mais on n'a pas mis l'accent sur l'homme. C'est depuis 2008 et 2008 que la réforme, plutôt la loi sur la réforme a été promulguée. Et en 2016, il y a eu un atelier, un séminaire atelier qui a été organisé par les COPIREP et au mois de juin, entre le 2 et le 3 juin 2016, au Romero Golf. Et là, M. Alex Nkosso, secrétaire exécutif du COPIREP, avait fait remarquer qu'il fallait prendre une pause pour réfléchir un peu, voir pourquoi ça ne marche pas. Mais malheureusement, à chaque fois qu'ils sont en train de réfléchir, ils mettent toujours l'accent sur les mêmes histoires, mais pas sur l'aspect humain. Alors que quand nous regardons bien, c'est vraiment un problème d'hommes qui dirige les entreprises.
Voilà, mais Félicien, si vous parlez, oui, si vous évoquez la question d'hommes, si nous, avant les années 90, qu'on a vu le tissu économique de la RDC s'est détérioré, comment est-ce que on parvenait à placer les hommes dans ces différentes entreprises avant que nous puissions tomber dans ce que les gens ont toujours dénoncé comme clientélisme?
Oui, à l'époque, il y avait aussi le clientélisme, mais c'était pas aussi accentué comme aujourd'hui. Il y avait le clientélisme, mais c'était pas aussi dans les proportions que nous en avons aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, on dirait que les entreprises sont délaissées et ne peut être nommé que celui qui vient d'un parti politique. C'est par militantisme ou par tribalisme, par clientélisme. Il n'y a pas vraiment de critères objectifs, de compétences, de moralité, d'éthique et de probité morale ou de patriotisme. Si vous faites une enquête, vous trouverez cela dans beaucoup d'entreprises, dans la majorité d'entreprises. Et c'est ça qui est un problème. Mais à l'époque, il y en avait aussi, mais c'était pas aussi comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les entreprises sont délaissées. C'est pourquoi vous trouverez que beaucoup d'entreprises sont devenues des canards boiteux, alors qu'à l'arrivée de l'AFDEL, les entreprises étaient encore florissantes et que ça pouvait fonctionner normalement et supporter les agents qui y travaillent. Or, aujourd'hui, c'est dans toutes les entreprises qu'il y a un problème d'arriérés de salaire et même les conventions collectives ne sont même plus respectées. Donc, moi, je pense que quand vous lisez tout ce qui est fait, vous trouvez qu'on ne met pas l'accent sur l'homme qui doit piloter ces entreprises.
Voilà, on va écouter Abamungu qui est à Bukavu. On vous garde, Félicien, on va revenir à vous. Abamungu, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Oui, bonjour, Radio Okapi.
Alors, est-ce que c'est les gens qui estiment que oui, les nominations peuvent apporter un nouveau souffle dans ces entreprises, mais il y en a qui estiment que la question doit être considérée un peu au-delà des nominations, mais des réflexions profondes pour arriver à rendre ces entreprises viables et plus compétitives à Bamungu. Quel est votre point de vue?
Oui, mon point de vue est tel que les problèmes au sein de ces entreprises ne figurent pas dans les nominations. Mais il s'agit d'un problème d'hommes. On pourra les changer même 1000 fois et rien ne changera. Par exemple, je vous donne l'exemple, ici nous avons la cimenterie de Katana. Elle a été relancée par l'État congolais et quelques temps après, elle a fermé ses portes suite à la surtaxation. Et la même entreprise a été revendue à l'un des ministres de l'État, dont elle est nom ici. Et aujourd'hui, elle produit les ciments et on les voit ici sur place. On s'étonne de voir si ce sont les particuliers qui sont plus riches que l'État. L'État congolais devrait plutôt chercher les voies et moyens pour nous former à la notion du patriotisme. Il semble que nous aimons plus nos poches que les biens publics.
Merci beaucoup, Abamungu. Vous estimez que c'est pas une question de nomination, il y a une question de patriotisme qui doit se poser. Ce sont les hommes. Si les hommes n'ont pas un autre regard, on peut le changer. Ça ne va pas apporter des solutions. Merci beaucoup, Albert. Vous êtes à Kananga. Merci d'être avec nous, Albert. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Albert.
En fait. La question était de savoir si en nommant ces mandataires à la tête de ces entreprises, il y aura une bonne gestion ou ils vont essayer de relancer toutes ces entreprises. Pour moi, c'est non, hein, parce qu'il y a d'abord l'impunité qui règne au sein de la classe politique du chef de l'État. Tous ces gens, prenons seulement l'exemple de l'ex-Sonatra. Il y a eu M. Kibembe qui a été à la tête de cette entreprise et qui a été l'objet de détournement. Il a été suspendu sur la cause. Et maintenant, le même monsieur, Kindombe Mazunga, veut à ce qu'on puisse les réhabiliter. Et puis, il a promis d'un jour, il pourra résoudre la situation des arriérés, des salaires des agents de l'ex-Sonatr. Est-ce que c'est possible? Ma question, ma préoccupation, qu'on puisse demander à M. Kindombe Mazunga de nous montrer là où se trouve l'argent de la SPT. Parce qu'il connaît là où se trouve cet argent. Parce qu'il a promis qu'il va résoudre cette situation dans 20 jours, une fois réhabilité.
Mmh. Rappelons, voyez, oui.
Il y a vraiment l'impunité. Mmh. Et il n'est pas inquiété, il est là.
Rappelons quand même Albert que les cas de l'ex-Sonatra, la société commerciale des transports et des ports, a été réglé dans cette ordonnance, dans ces nominations. Madame Vicky Katumwa Makalaï a été nommée présidente du conseil d'administration. Et monsieur Daniel Moukoko Samba, l'ancien ministre du budget, je crois bien, a été nommé DG. Mais pour vous, vous estimez qu'il y a le problème d'impunité. Parce que si un mandataire a été suspendu pour cause de détournement des données publiques et qu'il ne soit pas inquiété, cela ne résout pas les problèmes et les nominations ne peuvent pas résoudre les problèmes. Merci beaucoup, Albert, ingénieur Valérie. Merci d'être avec nous ici à Kinshasa. Bonjour. Ingénieur Valérie, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à toute l'équipe.
Voilà, ça dit qu'il y a deux choses. On estime que quand les entreprises sont en difficulté, on peut procéder à des nominations, il faut amener un nouveau souffle, mais il y en a qui estiment que le problème, comme par exemple sur la page Facebook, il y a notre ami... Un compatriote sur la page Facebook qui a évoqué le système. Il dit il faut une refonte en profondeur du système des compréhensions, des gestions de ces entreprises. Si on nomme les gens et que le système ne change pas, il n'y aura pas des solutions, ingénieur Valérie.
Il a parfaitement raison. Tant que le système est le même, il n'y a aucun mandataire qui créera un miracle. Ça sera toujours un éternel recommencement de l'histoire. Vous savez, si nous suivons bien l'historique de toutes les entreprises publiques, vous remarquerez que c'est vraiment déplorable. C'est depuis l'époque du maréchal Mobutu jusqu'à ce jour, ces entreprises ne font que s'éliminer une à une. La question reste maintenant de savoir comment expliquer que les entreprises privées tiennent les coûts, elles qui payent les taxes, les douanes, les impôts, parfois même les frais de publicité comme Bra Congo et Bralima, elles tiennent à exister. Tandis que les entreprises de l'État qui bénéficient des exonérations, qui ont beaucoup de faveurs, puissent disparaître. Donc, à l'origine, il y a un mal profond. Le mal profond, c'est le système. Il faudrait que la politique change. Tant que la politique n'a pas changé, nous n'avancerons pas avec les entreprises publiques. Vous savez, dans notre pays, nous avons connu deux grandes écoles politiques. Il y a le mobutisme et le tshisekedisme. Mais puisque aujourd'hui nous retrouvons dans la sphère dirigeante, ces anciens mobutistes qui n'ont pas d'autres métiers, d'autres spécialités que le mobutisme. C'est cette politique qu'ils ont amenée. Et par rapport aux entreprises, le mobutisme consiste à quoi? Consiste justement à confondre les entreprises avec les poches des individus. Si bien que les grandes entreprises sont devenues des banques centrales bis. Avec cet état des choses, on comprend d'abord qu'il y a violation du premier principe de la comptabilité, qui voudrait que la personne de l'entreprise soit distincte de celle du propriétaire. Mais lorsqu'il y a confusion entre l'entreprise et le propriétaire, donc c'est toujours l'État congolais qui viole même la personnalité juridique des entreprises par les élections politiques. En commençant par les engagements, on engage qui on veut, et après un moment donné, même s'il faut assainir, on ne sait pas assainir parce que tel c'est le beau-frère de tel, c'est le neveu, c'est la nièce de tel. Bon, avec les revenus prennent beaucoup de destinations et avec tout cela, comment voulez-vous que les entreprises puissent même planifier? Je prends l'exemple des entreprises techniques que nous avons là-bas. On a cité l'ONATRA, la régie des eaux, la SNEL, tout ça. Vous savez qu'il faut même commencer, parlons même de l'ONATRA parce que l'État nous est imparti. Il faut commencer par renouveler même le matériel. Le gris, on le retrouve à l'ONATRA, date de quelle époque? Sur le plan comptable. Mais elles sont déjà amorties. Il faudrait même les remplacer. Mais est-ce que quand l'ONATRA travaillait, il n'y avait pas d'argent pour remplacer ces grilles? Où sont partis les bateaux? Nous savons que c'est depuis l'époque du maréchal Mobutu que même les généraux s'est approprié des bateaux de l'ONATRA. On a appris que tel beach, c'est pour tel beach, un général, il a combien comme salaire pour se taper un beach. Vous comprenez un peu? On a fait des dons aux gens, comme ça, les dons, le matériel de l'entreprise, un capital. Puisque ces entreprises avaient un capital, avaient un fonds de roulement. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais c'est parti où? Et pourquoi aucun mandataire n'est condamné? Imaginez-vous, parlons de l'ONATRA par exemple. C'est l'échantillon que je prends, mais que nous pouvons extrapoler à d'autres entreprises. Quels sont les mandataires que l'ONATRA n'a pas connus? Des éminents professeurs, dont nous avons connu le professeur Kalungu Mbikai. Aujourd'hui, nous avons le professeur Daniel Mukoko Samba. L'ONATRA a connu des politiciens, les grandes puissances de chaque régime. Nous avons connu, par exemple, Ilondo, à l'époque du maréchal Mobutu. Nous avons connu même le fils Maison. Nous avons connu aussi d'autres gestionnaires du régime, comme M. Kimbembe Mazunga, qui vient de partir. Qu'est-ce qu'on a produit avec tout ça? On a même connu des fils Maison, comme M. Mbelolo. Mais imaginez-vous qu'on a même changé les statuts des mandataires. Mais malgré tout ça, on a même pris les fils maison, on a pris des éminents professeurs, on a pris ceci.
Mais alors le diagnostic, oui, ingénieur Valérie, alors avec ces diagnostics, vous estimez que le problème, c'est le système qu'il faut changer. Et tout à l'heure, d'ailleurs, quand on préparait cette émission Parole aux auditeurs, il y a des compatriotes qui estiment que même l'introduction du système des conseils d'administration n'a pas pu aider ces entreprises avec plus de 20 personnes dans les conseils d'administration, avec autant de bons d'argent qu'il faudrait sortir. Rappelons quand même que du temps de l'ONATRA, même quand tu as eu signature de contrat avec Progoza pour la performance, c'était des millions de dollars et les comités de gestion sortaient avec autant d'argent. Mais la plupart de cas, toutes ces entreprises qui sont en difficulté, qui n'ont pas d'outils, mais du moins, il y a toujours des problèmes de fonds qui sont détournés. Cela veut dire que quelque part, il y a quand même l'argent dans ces entreprises. Merci beaucoup, ingénieur Valérie, mais vous avez évoqué les cas de l'impunité, comme notre ami Albert de Kananga. Ingénieur, maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et la Menji. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Et alors, comment on peut arriver? On a eu plusieurs débats en profondeur autour de cette question des entreprises, mais on a tendance à revenir au même et il y a même des mandataires qui ne parviennent pas à faire 5 ans comme le prévoit la loi. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas de contestation de mégestion. Mais on y va toujours dans ce sens. Comment on peut arriver à s'en sortir entre les différentes nominations et la proposition sur la réforme profonde, Adrien?
Oui, merci beaucoup, Pierrot, de la parole que vous m'accordez. Je pense que nommer le gens à la tête des entreprises n'est pas une mauvaise chose. Mais là où, chez nous, on tape toujours à côté, c'est parce que on ne parvient toujours pas à diagnostiquer les différents problèmes que présente chacune de nos entreprises. C'est là qu'il y a de la confusion, il y a de la cacophonie. On prend n'importe qui, on les nomme, on ne parvient toujours pas à vérifier d'abord ce que cette entreprise présente comme difficulté. C'est comme ça qu'au jour d'aujourd'hui, je donne une partie à mon compatriote ingénieur Valérie, lorsqu'il dit que la grande partie, c'est d'abord le système. Je m'en vais vous donner un exemple aussi simple. Vous allez vous rendre compte que dans les années 90, avec la SNCC, à l'époque c'était la Cisaraï, on prend M. Classe. Il vient parce qu'il était libre de tout faire. Il a diagnostiqué, il a compris qu'il y avait un problème telle part. On a scindé la société en deux. Une partie était privatisée, une autre partie était laissée entre les mains du gouvernement congolais. Et tout le monde s'est rendu compte que la partie privatisée avait pris de l'envol. Donc il avait très bien travaillé, il avait réussi son objectif. C'est comme ça qu'arrivé à terme de son contrat, il leur est parti. Maintenant, dans le même ordre d'idées, M. Classe a été rappelé encore dans les années 2005, 2006-2007, parce que le système était resté le même. Le monsieur a trouvé des difficultés pour qu'il puisse s'en sortir là où il avait réussi, et quelques mois plus tard, il était obligé de jeter l'éponge. Il est reparti. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a certaines entreprises qui présentent comme problème les problèmes structurels. il faut d'abord, au lieu, donc avant de commencer par la nomination de gens, voir d'abord les structures, donc les structures qui entourent cette société-là. Là, c'est de un. Il y a effectivement certaines sociétés qui posent aussi les problèmes d'hommes. Parce que vous allez vous rendre compte que les structures sont bonnes, donc comme qui dirait, le base était déjà jeté, il faut maintenant que les hommes viennent maintenant accompagner ces structures-là. Et là, ils posent des problèmes. Ce sont la plupart des entreprises. Maintenant, lorsque ces hommes-là démontrent leurs limites, on décrit pour dire que non, ça ne va pas, pourquoi? Parce que le critère de nomination n'était pas respecté. Chez nous ici, on prend toujours les oncles, les tantes, les neveux, ce sont eux qui viennent en avant-plan. Maintenant, les hommes compétents sont mis de côté. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez changer d'abord pour mettre les hommes compétents? On refuse. Et lorsque on nomme ces hommes compétents-là, c'est lorsque les entreprises sont presque vraiment en déconfiture. Et là, les hommes compétents ne savent plus quoi faire. C'est là que maintenant, la justice devait maintenant jouer son vrai rôle en tant que dernier rempart dans la société. Devant les hommes qui sont limités, des hommes détourneurs, mais la justice ne fait pas son travail. On voit la justice se compromettre là où il ne faut pas arrêter. C'est là que la justice arrête. Là où il faut arrêter, elle fait abstraction. Là où il faut jeter en prison, on ne jette pas en prison, mais les innocents se retrouvent en prison. C'est ça le problème. Moi, je pense la solution à cette thématique demeure d'abord par le vrai diagnostic.
Oui.
Parce qu'on doit chercher d'abord une équipe restreinte pour essayer de comprendre qu'est-ce que chaque entreprise, chaque société pose comme problème. Là, c'est la première solution. Deuxième solution, je reviens à ce que vous avez soulevé, Pierrot, pour dire que le système des comités de gestion, c'est un système qui a démontré ses limites. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que j'ai toujours proposé, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse revoir les comités de gestion?
De gestion,
parce que c'est un comité fort. Lorsque vous prenez le pilier de chaque société avec ce comité-là, c'est beaucoup
d'argent. Ça occasionne beaucoup de dépenses et c'est difficile. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui. Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la Radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, par rapport à la nomination des nouveaux mandataires de l'État, moi j'estime que ce n'est pas une solution. Si vous scrutez la liste de ces mandataires-là, ce sont ceux-là qui ne sont plus ministres, qui ont travaillé avec le régime actuel. Ce sont ceux-là qui ont géré les entreprises et qui n'ont pas pu relever les entreprises-là. C'est-à-dire qu'on est en train de donner du gain à ceux-là qui ne se sont pas retrouvés peut-être au gouvernement. Et à cette allure où nous allons, ça ne produira absolument rien. Monsieur Pierrot, vous êtes sans oublier, il y a eu autant de réformes dans ces pays, dans des entreprises d'État transformées, niquées en société, en entreprise commerciale. Rien n'a changé. On parle du cas de la FNCC. Il y a eu des réformes. Il y a un nouveau PDG. Ça n'a jamais payé. Les personnels n'est pas toujours payé. On totalise beaucoup de mois d'arriérés. Et aujourd'hui, si nous parlons de la GECAMI, il y a toujours un PDG intérimaire. Au moment où celui qui est fui là, M. Calège, qui avait dénoncé, qui avait refusé de détourner l'argent pour donner à ceux-là qu'il avait nommé, jusque-là, il est suspendu. Sa suspension n'a jamais été levée. Il n'a jamais été traduit en justice, puisque lui réclame toujours que la justice soit faite. Et vous voyez que c'est à cette allure que ça ira. Nous connaissons certains, d'ailleurs, ces nominations. C'est par rapport aux partis politiques. Je peux citer certains d'autres en son temps du temps de Mobutu, il fuit à la GECAMI. Il est porte-parole de la majorité présidentielle. Il se retrouve aussi PCA à la SNL. Qu'est-ce qui va changer? Moi, j'estime que ça se pose surtout sur la qualité d'homme. Mais lorsqu'on se retrouve aujourd'hui PCA, on se retrouve aujourd'hui PDG, avec coloration de majorité présidentielle, avec coloration d'un certain parti politique. Monsieur Pierrot, je te rassure, aujourd'hui je parle au téléphone, à votre chaîne, me donnerai raison. rien ne changera. Puisque ce qui va poursuivre par après, c'est quoi? Même l'embauche sera toujours basée sur le problème politique, les partis politiques. Et lorsque les engagements se font entre partis politiques, l'impunité ne sera jamais...
Il n'y a pas moyen de combattre l'impunité. Merci.
Va toujours persister.
Merci beaucoup,
Maître Chonville. Il y aura toujours une gestion opaque.
Merci beaucoup. La gestion opaque, dès que les nominations tiennent compte de poids politique ou des alliances politiques, ça devient difficile. 081-890-63-80-09-97-06. 0797-09-97-06-49-69 pour intervenir en direct. Leopold, vous gardez la ligne, on revient à Félicien tout à l'heure et nous allons vous accorder la parole.
Identité culturelle. La culture congolaise, dans sa diversité et sa richesse, a un rendez-vous sur Radio Capi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Retrouvez toute l'équipe tous les samedis à 8h30, le mardi à 14h15.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
On va retrouver Félicien Kindoula tout à l'heure. On a perdu la ligne téléphonique. La réalisation va le recontacter. Maître Gervais, sur la page Facebook, estime que la nomination est meilleure et louable. Les mesures profondes de réforme n'étaient ou ne sont pas opportunes au niveau de ces dites entreprises publiques. Sinon, elles couvriraient bel et bien certains vices que les nouveaux animateurs ou dirigeants puissent favoriser seulement la gestion de la chose publique à se retrouver ou se stabiliser ou mieux aller dès l'avant, principe de continuité, tout en protégeant la paix, la vie sociale et l'assurance sociale de leurs semblables travailleurs. Ils doivent être de bonne foi et compréhensifs pour bien comprendre le nœud du problème pour pallier aux défis précédents. Ils doivent travailler pour les comptes généraux du pays et non pour leurs intérêts individuels. Félicien Kindoula, merci, nous sommes avec vous. Vous avez suivi les compatriotes qui sont revenus sur la lutte contre l'impunité dans les entreprises, les nominations en tenant compte du poids politique. Il y a même sur la page Facebook tout à l'heure un auditeur qui estimait que s'il faut nommer, c'est notre ami Caleb Abili. Pour lui, il dit, mais quand vous prenez quelqu'un, un juriste, vous le placez à la tête d'une entreprise technique sans considérer le domaine de compétences, qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Quelle est votre réaction, Félicien Kindoula?
Merci beaucoup. Vous avez constaté que tous les intervenants, du premier jusqu'à Maître Sonville, sont revenus presque sur des mêmes problèmes. Et les problèmes que nous avons, c'est au niveau de la gouvernance de la République. Donc, quand nous comparons ces mêmes entreprises sur la Deuxième République, ce qu'ils ont donné comme performance et aujourd'hui, nous ne pensons pas qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a un problème d'homme. Et c'est pour cela que nous disons que aujourd'hui la gouvernance est un peu très médiocre par rapport à hier. Et c'est là où nous devions plutôt revoir les choses. Imaginez par exemple le cas des entreprises, des copyrights qui a fait un séminaire atelier en 2016, alors que la réforme est passée depuis 2008. Mais en 2016, je vous disais que les secrétaires exécutifs de cette époque-là, je ne sais pas si c'est les mêmes qui est toujours là, Monsieur Koussou, a demandé qu'on puisse faire une pause pour évaluer, pour réfléchir et chercher à réorienter un peu l'action parce qu'on a trouvé que rien ne marchait malgré la réforme. Or, cette réforme a fait aussi des recommandations qui n'ont jamais été exécutées. Par exemple, qui demandait qu'il y ait l'adoption par les entreprises publiques transformées des instruments de redressement ayant fait leurs preuves suivant les séquences après. Un diagnostic de l'entreprise, deux plans stratégiques, 3 plans de redressement, 4 contrats de performance et 5 contrats d'audit. Et ils ont encore ajouté d'autres recommandations, par exemple mettre en place au sein des entreprises un mécanisme interne de pilotage de la réforme sous l'autorité du directeur général en prenant en compte les aspects liés au changement de leadership. Et le troisième point, ils ont parlé de repenser les comités de suivi de plans de redressement et des contrats de performance en y incluant des experts indépendants, les usagers et la société civile. Il y en a plusieurs, ils seraient partout libres, mais aujourd'hui on nomme toujours, on ne fait que nommer, mais toutes ces histoires-là dans les entreprises ne sont pas encore opérationnelles. Toutes ces recommandations ne sont pas opérationnelles. En fait, la nomination est devenue dans nos entreprises publiques comme un marché. Quand vous avez un oncle qui est à la présidence ou qui est ministre ou à la primature, qui a le pouvoir, et il vous dit, bon, voilà, je vous donne ce marché-là, vous allez vivre avec votre famille pour ça, il faut plus me déranger, et voilà, je vous donne un travail et tout ça. Et ces gens sont nommés pour qu'ils puissent se servir et servir leurs parrains. Et c'est au vu et au-dessus de tout le monde, dans toute impunité, et c'est comme ça que nous sommes en train de
voilà. Mais Félicien, il y a par exemple, oui. Félicien, il y a Sephora Matona sur la page Facebook qui estime que vu la crise économique qui gangrène notre pays, les entreprises des portefeuilles doivent être dirigées par des technocrates, des spécialistes et non des politiciens, ce que je déplore. Et tout à l'heure, un compatriote aussi déplorait les comités de gestion. Il y en a qui estiment que le système même du conseil d'administration, comité de gestion avec un pléthore de plus de 25-26 personnes pour des fois des entreprises qui ont des difficultés et tous ils ont besoin d'être payés. Est-ce que, en termes structurels, on devait porter des réflexions autour de cette question?
Écoutez, il n'y a même plus de comité de gestion de 5 ou de plus de 10 personnes, ça existe depuis la réforme. Et les entreprises en général, donc les DG, les DGA et puis les conseils d'administration où il y a peut-être 3 ou 5 personnes. C'est pas, ce sont ces gens-là qui prennent tout l'argent de l'entreprise pour eux-mêmes, je ne pense pas. Mais ici, le problème, même quand on demande de nommer les technocrates, et les technocrates, ça ne suffit pas. Parce que ici, dans notre pays, nous avons des gros diplômes et puis nous avons les mythes des diplômes, mais on ne fait pas très attention que les diplômes, comme on les dit, science sans conscience et ruine de l'âme. On ne fait pas attention à ça. On peut trouver des technocrates, mais des technocrates qui sont des pilleurs, qui sont des voleurs, qui n'ont pas de moralité, d'éthique et tout ça. Et, mais parce qu'ils sont soutenus par des parrains et qui sont en train de détruire. Mais le problème, c'est qu'il faut combattre l'impunité, combattre la corruption, combattre les tribalismes et les clientélismes. Et c'est peut-être à ce prix-là qu'on arrivera à gérer des entreprises et à les redresser.
Merci beaucoup, Félicien. Kindola, on écoute Léopold qui est à Tchikapa. Léopold, bonjour.
Bonjour, Gilles.
On vous écoute.
Oui, pour moi, je dirais, cela ne changera rien, ne modifiera rien à cette nomination, à ces entreprises. Imaginez hier, quelqu'un qui est en pleine ministre honoraire, directement il devient directeur de l'entreprise. Il faudra obligatoirement nommer les secrétaires ayant remplacé ceux qui vont à la retraite. Vous imaginez, notre pouvoir en place, pourquoi n'aime-t-il pas les jeunes, la jeunesse s'il vous plaît? Je suis contre cette nomination qui ne change rien et qui ne va rien changer pour cette nomination à ces entreprises hier.
Merci beaucoup, Léopold. Vous êtes contre, vous estimez que ça ne change pas le renouvellement lui-même. Vous avez suivi au niveau du ministère de la fonction publique les recrutements de 1000 jeunes pour le remplacement. Vous estimez qu'il faut renouveler parce que quand on regarde la plupart des nominations, c'est juste un système de rotation qui s'organise au niveau de entreprises. Merci beaucoup, Léopold. Maître Ngandou, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Merci. Je vous salue aussi, Pierrot.
Et on vous écoute.
Bon, j'allais d'abord rassurer Papa Félicien Kindula, que je connais bien. Et j'ai eu d'ailleurs l'honneur de participer avec lui sur un même plateau de Mirador plusieurs fois. Jean-Gandou Gaston, il connaît bien. Il a parlé avec lui sur plusieurs thématiques sur Mirador, avec Toto Anderson, voire Jean Simon. Mais je vais les rassurer que son argument sur l'homme congolais qui pose problème ne restera pas éternel. Et aussi, je voulais aussi dire que non, avant de juger, ils viennent d'être nommés, avant de juger, il faut que nous puissions d'abord voir leur manière de faire les choses, après quoi on va porter un jugement sur leur gestion. Mais j'ai aussi une remarque à faire par rapport à la conception que nous avons, nous Congolais, de la gestion de la chose publique. Je ne sais pas si c'est un héritage de nos ancêtres ou du colon. Hein. Bon, de la chose publique est considérée comme les biens de tout le monde. C'est ça la réalité, les biens de tout le monde. Tout le monde pouvait en faire tout ce qu'il veut avec, sans s'inquiéter. C'est ça la philosophie qu'on a. Et là, on part pour piller parce que ça n'appartient à personne. Et c'est le champ de tout le monde. Lorsque vous y êtes, lorsque vous avez l'opportunité, entrez, piller, faites votre fortune. Parce que quand vous ne serez pas là, c'est des autres qui vont en jouir. Mm-hmm. Mais à mon avis, ça pose problème du sommet, hein, du sommet au bas. Donc le problème, c'est à ce niveau-là, parce que là, il y a des DG que vous faites entrer et vous faites allusion qui sont au sommet. Mais je vous dis que le problème de la corruption, de la mégestion, c'est toute la chaîne de l'administration qui pose problème. Nous arrivons des fois en bas au niveau des directions, des services. Vous voyez comment est-ce que ceux qui sont censés commander là-bas utilisent les services à leur propre intérêt, au détriment de la population qui n'arrive plus à comprendre quel est le rôle de l'administration en soi. Donc je pense que le problème, c'est vraiment à ce niveau. Si on a, à mon avis, pour rejoindre encore notre papa Félicien, que je connais fort bien, donc si on a des gens, à mon avis, des gens qui ont l'esprit de produire, parce qu'en réalité, l'objectif de ces entreprises, c'est produire, mais aussi et surtout rendre service à la population. Mais si on a des gens qui viendront avec cet esprit des choses, produire dans le sens de rendre service à la population, mais aussi renouveler l'outil de service, moderniser, ce serait vraiment un pas pour notre pays. Mais le problème réside au niveau que je vous ai dit de la conception que nous avons, de la gestion de la chose publique, de la chose publique en soi, l'État. Je ne sais pas si c'est les colons et qu'on nous explique un peu. Vous
avez voilà, et merci beaucoup. Là,
et comme c'est pour sauvegarder nos intérêts, vous y entrez, vous volez au détriment de votre population parce que nous, c'est nous qui vous protégeons. Vous êtes protégés par les présidents qui vous ont nommé, des trucs comme ça. Et parce qu'en réalité aussi, ces gens-là, s'ils sont réellement voleurs, on n'a jamais vu. Aucune poursuite à leur rencontre, on voit seulement des sanctions administratives. Moi, je pense que c'est pas une manière, bonne manière de faire les choses. Mm-hmm. Ailleurs, merci. Tout le monde se conforme aux normes, tout le monde veut respecter, veut laisser un exemple qui sera immortalisé. Mais chez nous, ce sont des gens qui se livrent
alors,
à des maître, choses qui
maître
sont
Gaston,
mauvais.
Voilà.
Mais ils sont,
mm-hmm.
est-ce qu'ils sont manipulés, ils sont contraints de les faire ainsi? C'est pour cela que
vous me posez beaucoup de questions.
Que non, c'est
voilà.
vraiment très dommage.
Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez même dit, est-ce que c'est un héritage de la colonisation, est-ce que c'est un problème de culture, on estime que quand on a une entreprise, c'est un bien qui n'appartient à personne, chacun peut se servir comme il veut, parce que vous avez évoqué la colonisation tout à l'heure, on donne la parole à Nathalie qui est à Matadi, pourquoi? Parce que lui, sur la page Facebook tout à l'heure, Nathalie, vous avez dit, c'est la prédation qui est partie depuis la colonisation, Gaston lui s'inquiète, il dit, est-ce que c'est un héritage de la colonisation, la manière dont on se comporte dans les entreprises, qu'on puisse nommer des gens, mais dès lors qu'on n'a pas changé cette mentalité de la prédation héritée depuis la colonisation, on ne peut pas arriver à sauver ces entreprises. Nathalie, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, écoute, merci pour la parole. Au fait, moi je vais intervenir plus scientifiquement en tenant compte de principes de l'économie publique et de finances publiques tout en présentant le courants économiques qui ont dirigé le monde. Donc, vous allez vous rendre compte que vers le 18e siècle, c'est le courant économique libéral qui était et qui demeure à ces jours le courant le plus pondérant parce que il impose la réalisation de l'intérêt du capital investi. Alors, c'est ce courant-là qui a poussé l'homme blanc à 1885 à chercher à coloniser nos États, nos territoires. En colonisant nos territoires, il est arrivé que ce courant libéral, vers 1930, nous a amené à une crise mondiale, qu'on appelle crise mondiale de 1930, et c'est seulement après cette crise mondiale que un autre courant va naître, le courant néolibéral et interventionniste, donc l'intervention de l'État dans l'économie. Et tout ce que nous sommes en train de dire ici repose sur l'absence de l'application des principes se rapportant à l'intervention de l'État dans l'économie. Et cette intervention de l'État dans l'économie repose sur les principes de l'économie publique et des finances publiques. Mmh. Et dans cette logique-là, l'État réalise deux productions. Il y a une production publique et il y a une production privée. Dans la production publique de l'État, ce sont les services de l'État qui réalisent ça. Dans la production privée, ce sont ces entreprises qui les réalisent. Mais ici, tellement que l'homme blanc, en 1885, nous a laissé avec ce système de prédation économique en venant piller, ramasser et cueillir tout ce qui était au profit de la Belgique. Et ce système est resté entre nous. Et au lieu de voir, parce que à cette époque-là, après 1930, déjà, nous étions toujours une colonie. Alors que dans le monde, l'évolution a eu lieu et c'était plus les États qui commençaient à s'imposer plus sur le capital, sur les détenteurs des capitaux. Mais nous ici, cette structure a été remplacée par ceux qui dirigent. Ce sont ceux qui dirigent qui se considèrent comme les grands capitalistes qui s'imposent sur les autres. Alors c'est ce système-là que nous devons changer. Mmh. Et pour le changer, il n'y a qu'une seule voie. C'est une réforme de finances publiques parce que les entreprises publiques constituent la partie de la production privée de l'État. Cette production privée n'est que la conséquence de la production publique qui est réalisée par l'administration, les ministères et consorts. Mmh. Alors dès lors qu'il n'y a pas un mariage en système de toute cette production, on ne pourra rien apporter parce que jusqu'à preuve du contraire, nous continuons avec la prédation économique.
Merci beaucoup Nathalie. Nous continuons avec la prédation économique. Nous allons demander à Félicien de placer un mot et puis on va terminer avec les autres auditeurs. On revient à vous rapidement, Félicien Kyundula. Vous l'avez suivi. Nathalie insiste beaucoup sur l'héritage de la prédation économique. Les principes ne sont pas assez suivis. Mais Maître Gaston estime qu'un jour ou l'autre, cette question d'hommes sera résolue. On arrive à avoir des hommes consciencieux qui peuvent travailler pour redresser le pays et sauver les entreprises, Félicien Kyundula.
Je manque de temps pour vous lire toutes les recommandations du séminaire atelier tenu par l'Ecotéref sous l'autorité du ministère des Portefeuilles en 2016, au mois de juin, à Roméo Golf. Et vous allez comprendre qu'il y a des bonnes idées, il y a des bonnes recommandations, il y a des bonnes suggestions. Mais la question que nous devons nous poser, pourquoi tout cela n'est pas mis en application? Et c'est là où nous revenons sur les problèmes de la gouvernance, c'est là où nous revenons sur les problèmes des systèmes de gestion de la chose publique dans ces pays. Et là, c'est la part de l'autorité. Mmh. Je pense que si l'autorité veut vraiment que les choses changent, il peut les changer. Mais ici, il manque cette volonté politique. Et nous voulons continuer dans ce système de prédation, dans ce système de destruction, parce que toutes ces entreprises qui fonctionnaient bien hier, qui savaient payer les personnels, et ces personnels qui, avec ce qu'on leur payait, pouvaient supporter aussi d'autres membres de famille, ils sont en train aujourd'hui de créer un problème social. Parce que quand c'est lui qui travaille, et dans la même situation, il sait qu'ils sont chômés, et vous comprenez que c'est le nombre de chômés qui augmente, et parce que ceux qui travaillent sont en quelque sorte des chômeurs déguisés. Et là, c'est la responsabilité des pouvoirs publics qui doivent savoir qu'ils ont la mission d'améliorer les conditions de vie ou le vécu quotidien de leurs peuples.
Merci.
Et c'est là où nous insistons pour qu'il y ait changement à tous les niveaux.
Merci beaucoup, Félicien Kyundula, de nous avoir accordé de votre temps. Je rappelle que vous êtes directeur et cadre dans les entreprises publiques. Merci de cet apport, les recommandations de Copirep, beaucoup de recommandations, mais qui malheureusement n'ont pas pu être prises en compte depuis que cela a été décidé et proposé. Nous restons à Kinshasa avec vous, Maître Laurent. Bonjour.
Oui, bonjour. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé aujourd'hui la parole. Oui. Parce que tout ce qui se passe dans notre pays, c'est un problème réellement tout à fait politique. Parce que tous ceux qui sont nommés, ce sont des gens qui ont milité politiquement auprès de leurs leaders politiques et qui gèrent le pouvoir. Et pour les gratifier, tu peux ou ne pas être intellectuel, on te gratifie d'une grade au sein d'une entreprise publique pour que tu puisses prendre le buffet de ce que tu as chanté pour tel, tu as plaidé pour tel, alors on te donne ça comme cadeau. Donc fais ce que tu veux et non pas là pour l'entreprise ou pour l'intérêt général. Donc et aujourd'hui, s'il vous plaît, si ils étaient pour le développement du pays, tout ce qui devrait être fait, c'est d'abord faire un état de lieu dans chaque entreprise, savoir quand est-ce que l'entreprise était, même si c'est à l'époque coloniale. Alors aujourd'hui, où se trouvent les mots qui ont fait que l'entreprise soit en faillite? Et c'est comme ça que on trouvera encore d'autres personnes qui étaient même du temps de 1960, 70, 80, qui sont aujourd'hui peut-être moins gradés, mais qui savent qui a été à la base de la destruction de l'entreprise. Peut-être les autres ont la vie qui deviennent même des ministres. On va dire c'est elle qui avait détourné ce qui était là. Et nous l'avions cité, mais malheureusement, on ne l'a pas arrêté parce qu'il était du pouvoir. Et c'est comme ça qu'on peut les arrêter, ravir même les immeubles qu'ils construisent jour et nuit, hein, au détriment de la population congolaise. Hein. Donc, mais quand on ne fait pas l'état des lieux, c'est une jungle pure et simple. Et là, nous disons, tant qu'il n'y a pas de justice à la République démocratique du Congo, on ne peut jamais espérer
jamais
la réussite. Même
voilà.
La Bible aussi dit, la justice élève une nation.
Merci.
Et quand la justice élève une nation, c'est que le péché ou la méchanceté au pouvoir fait la honte des peuples. C'est comme ça le peuple congolais est dans la honte de la vie où il y a des pauvres. Pourquoi? Parce qu'au sommet, les autorités font du péché ou la méchanceté et la Bible n'a pas menti. C'est pourquoi il y a la honte des peuples congolais partout où
merci.
Ils sont.
Merci beaucoup, merci Maître Laurent. C'est une question d'abord de faire l'état des lieux de la situation, mais la question de l'impunité aussi, longtemps qu'il y aura de l'impunité, ça sera très très difficile. Mais dès lors que les nominations tiennent compte de la gratification et des récompenses politiques, c'est difficile que les entreprises puissent se retrouver. Arsène, vous êtes à Kikuit, avez-vous cette appréhension que ces questions de gratification et des récompenses politiques qui ne peut pas aider les entreprises à être bien gérées et gouvernées, Arsène?
Merci beaucoup pour la parole, Monsieur Pierrot. Moi, je crois que si il faut continuer toujours sur cette logique-là des contestations et des regrets, je crois que rien ne va se passer. Nous allons toujours tourner en rond, il n'y aura pas de solution. Moi, je propose, je donne par exemple quelques exemples. Il y a par exemple Cohydro. Cohydro, c'est une entreprise pétrolière. Une entreprise pétrolière, ça veut dire une entreprise qui occasionne la pollution de la nature. Alors, cette entreprise-là, si aujourd'hui, par exemple, le Cohydro qui quitte, vient de passer près de 6 mois sans carburant. Donc, le Cohydro est en train de perdre, parce que le Cohydro doit payer ses travailleurs, et ses travailleurs ne font rien. Alors, je donne une petite astuce pour Cohydro, par exemple. Cohydro, comme Cohydro pollue la nature, Cohydro doit avoir quelques puits carbone qui compensent cette pollution. À part ces puits carbone que Cohydro peut avoir, Cohydro doit avoir un supplément de puits carbone qui peuvent lui permettre de vendre la séquestration de carbone et retrouver le moyen qu'il faut de l'extérieur dans une certaine autonomie. Par exemple, Cohydro qui quitte. Et de là, on ne manquera pas de carburant et on ne va pas polluer la nature sans faire quoi, séquestrer ce carbone. Je prends un autre exemple. L'OCPP. Une fois, je suis passé voir l'ingénieur Mangoy. Mais j'étais surpris de ce que je vis à l'OCPP avec le changement qu'il y a eu. Mais ce monsieur-là qui était en train de changer l'OCPP, où est-il? Mais remettez-le qu'il continue son petit travail là avec des petites astuces. J'ai vu un beau restaurant, et il y a le matériel qui venait, j'ai vu la salle des machines. C'était intéressant. S'il était là, je crois qu'aujourd'hui, le CPT aurait fait un pas. Un troisième exemple. On a fait des nominations aussi, bon, parce que ce sont les nominations qui sont passées dans la police. Je viens de recevoir quelques colis qui sont venus de Kinshasa ici. Les propriétaires de ces colis-là qui venaient dans le bus Kulu Kwango ont été descendus du bus au niveau de Mankana par la police. Mais le chef qu'on a nommé aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est mettre la paix. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce monsieur-là venait ici à Kikit pour s'enrôler. Vous l'arrêtez parce qu'il n'a pas une carte. Mais essayons de changer les choses. Essayons seulement de nous-mêmes, sans attendre le chef.
Voilà, merci beaucoup Arsène. Il faut essayer de soi-même plusieurs propositions. Rappelons quand même qu'Eco Hydro a changé dans la transformation. Actuellement, c'est la Société Nationale des Hydrocarbures du Congo, Sona Hydro, à la place de Eco Hydro. Étienne Mbité, vous êtes à Guémena. Merci d'être avec nous, Étienne. Bonjour.
Bonjour à toi, Capi. Bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Ok. Différentes nominations n'ont pas tenu compte des besoins réels des personnels et des entreprises, mais plutôt on a tenu seulement compte des appartenances ou des obédiences politiques, comme a dit certains collègues intervenants. Ce qui devrait être fait, c'est que on devrait commencer d'abord par dénicher les vraies causes des faillites de toutes ces entreprises. Et aussi, peut-être chercher à mettre sur pied la réforme en cours et vraiment connaître les vrais problèmes qui se passent. Mais nous avons compris que c'est simplement comme un véhicule qui est en panne, on change le chauffeur et puis on prend notre chauffeur, on met pendant que la vraie panne, le vrai problème reste. Mais aussi, moi je pense que avant de nommer le mandataire, Il a fallu consulter le personnel de toutes ces entreprises. Mais comme vous avez suivi certains syndicalistes de ces entreprises, ont fustigé, ils ont même ils n'ont pas été consultés. Donc, à mon avis, je pense que ce sont des nominations qui ne vont presque pas amener grand chose.
Des solutions. Voilà. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Merci beaucoup, Étienne. On aurait mieux fait de consulter même les syndicalistes. Sur la page Facebook, les débats se poursuivent. John Ojan Aïsiro, je laisse Mémé à couper. Ces nominations dans les différentes entreprises n'apporteront rien sur le vécu des agents de ces entreprises. Alors, c'est seulement des récompenses pour des cadres politiques, ceux qui étaient ministres, qui deviennent de membres de ces entreprises, ceux qui étaient dans les entreprises sont permis dans d'autres. Alors, pour moi, il n'y a pas de solution. Et il y a aussi Emmanuel Mabouaka qui estime que plus on nommera des politiques et alliés dans ces entreprises, et plus nous continuons toujours à nous plaindre qu'il n'y aura pas de solution. Merci, vous avez été nombreux à commenter ces sujets sur la page Facebook de Paroles aux Solitaires, mais aussi avec nous en direct. Nous disons merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire ce magazine. Sylvie Matundu était à la mise en onde, Tati Mapoukou à la réalisation, et Pierrot et la Meiji vous la présentez sous la supervision de Martin Sebujang. On se retrouve le lundi, mais retenez, lundi et mardi, nous aurons sur les antennes des Radio Capi les éditions spéciales des Paroles aux Auditeurs, produites et enregistrées à Walikale dans la province du Nord Kivu par J.R. Lungembo. On prend rendez-vous le mardi et le mercredi pour les éditions spéciales des Paroles aux Auditeurs, enregistrées et produites au Nord Kivu dans les territoires de Walikale. Pour l'instant, Paroles aux Auditeurs et sur www.radiocapi.net. Bon week-end à tous. Au revoir.